18h à 1 minute. Allez, le journal avec Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. La PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, c'est un dossier sensible qui focalisera aujourd'hui l'attention du dernier Conseil des ministres. Que contient précisément le texte présenté ce matin? Précision avec Antoine Maretz dans un instant.
Question dans ce journal, comment mieux encadrer le mécénat d'entreprise?
Alors que la Cour des comptes estime à 1 milliard d'euros par an le montant des exonérations fiscales pour inciter le privé à financer la culture, plusieurs affaires relancent le débat sur l'opacité de certains financements. Cécile de Cavazdoué a enquêté.
Dans l'actualité internationale, la consécration de Boris Johnson, aujourd'hui l'ancien maire de Londres et ancien ministre des Affaires étrangères britannique, succède à Theresa May.
Analyse à suivre depuis Londres avec notre correspondant Antoine Gignot. À Porto Rico, des mandats de perquisition ont été émis, notamment envers le gouverneur de l'île, Ricardo Rossello, impliqué dans un scandale mêlant propos homophobes et corruption. Alors que la population se mobilise massivement dans les rues depuis 11 jours, précision avec Valérie Crova. Et puis nous irons au Japon où Nissan s'apprête a annoncé un plan de 10 000 suppressions de postes. La PMA pour toutes sur la table du Conseil des ministres ce matin. C'est aujourd'hui que le projet de révision des lois de bioéthique doit être présenté après être passé devant le Conseil d'État. Les sages ont avalisé l'essentiel du texte qui comprend notamment l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Antoine Maretz.
C'est la mesure phare de ce projet, l'autorisation pour les femmes célibataires et les couples de femmes d'avoir recours à la procréation médicalement assistée. Pour le moment, seuls les couples hétérosexuels y ont droit. Cet élargissement de la PMA sera financé par la Sécurité sociale pour un coût estimé, selon le Conseil d'État, entre 10 et 15 millions d'euros par an, soit 5% du coût total actuel de la PMA. Concernant la filiation des enfants nés d'un don de sperme, le gouvernement n'a pas tranché, mais le Conseil d'État souhaite une différence de traitement entre les couples hétérosexuels et lesbiens. Dans ce cas, les couples de femmes, et eux seuls, devraient effectuer une déclaration anticipée devant un notaire. Les couples hétérosexuels pourraient, eux, choisir de révéler ou pas à l'enfant son mode de conception. Autre sujet abordé par ce texte, la question de l'anonymat des dons de sperme. Actuellement en France, un enfant né ainsi ne peut pas connaître ses origines. Le gouvernement propose que ces enfants nés après l'entrée en vigueur de la loi puissent avoir accès à leur majorité à des données non identifiantes, comme l'âge ou encore des caractéristiques physiques de leur géniteur et même à son identité, si celui-ci est d'accord. Deux scénarios sont possibles. Soit le donneur s'engage automatiquement à révéler son identité si l'enfant fait la demande à sa majorité, soit il a le choix de le faire ou non en cas de demande. C'est cette seconde option qui est préconisée par le Conseil d'État.
Antoine Maretz. Le CETA adopté hier à l'Assemblée nationale, mais d'une courte avance. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada a recueilli 266 voix pour, 216 contre et 74 abstentions, dont une majorité de députés La République En Marche. 9 d'entre eux ont voté contre le CETA, controversé notamment pour des raisons écologiques. Toujours à l'Assemblée nationale, le Parlement a adopté définitivement hier également, après 4 mois de débat, le projet de réforme de la fonction publique qui devrait faciliter l'embauche notamment de contractuels et permettre une plus grande mobilité des agents. Cette loi, fustigée par l'ensemble des syndicats de fonctionnaires, instaure notamment la fusion de certaines instances de représentation du personnel, à l'image de ce qui s'est produit dans le secteur privé avec la réforme du Code du travail. François de Rugy est passé à la contre-offensive hier soir sur le plateau de France 2 du 20h. Une semaine après sa démission, l'ancien ministre de la Transition écologique s'est appuyé sur 2 rapports, l'un mené par l'Assemblée nationale, l'autre par Matignon, publié hier, pour tenter de le dédouaner des accusations lancées par Mediapart. Elles concernent la rénovation de son appartement de fonction et les dépenses pour des dîners privés lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Même si l'indépendance de ces rapports est contestée par l'opposition, Maxime Fayolle, François de Rugy, s'est montré très offensif hier soir.
L'ancien ministre de l'écologie n'a même pas répondu à la première question du journaliste de France 2, cherchant d'emblée à faire passer un message.
Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Je vais vous dire, je n'ai jamais douté un instant que je réussirais à prouver mon honnêteté.
François de Rugy fait ici référence au rapport de Matignon et de l'Assemblée nationale. Il précise, selon lui, qu'aucune irrégularité ne lui est reprochée.
Tous les dîners sur lesquels Mediapart m'avait attaqué sont des dîners qui étaient dans le cadre de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale.
Et pourtant, 3 dîners sont bien d'ordre privé, notamment Noël et la Saint-Valentin. Et ça, même le rapport de l'Assemblée nationale le souligne. Et sur ce point, François de Rugy botte en touche.
Je me conformerai à ce que a dit le rapport de l'Assemblée nationale. Et donc, je suis invité, comme je l'ai souhaité, à me mettre en relation avec les autorités compétentes de l'Assemblée qui établiront le montant des frais et je les réglerai.
De son côté, Mediapart enfonce le clou avec de nouveaux articles sur ces dîners. Plusieurs participants confirment le caractère privé de la plupart de ces rencontres. Un véritable acharnement pour l'ancien ministre.
Oui au journalisme d'investigation, non au journalisme de diffamation. Parce que je vais vous dire une chose. La République de la délation, la République de la diffamation, ce n'est pas la République.
François de Rugy parle de diffamation, pourtant tous les chiffres publiés par Mediapart sont confirmés par les deux rapports sur lesquels il s'appuie. L'ancien ministre affirme toutefois avoir déposé plainte contre le média.
Au Palais Bourbon, Richard Ferrand a annoncé la création d'un groupe de travail pour renforcer les procédures de contrôle du budget de la présidence de l'Assemblée nationale. Propositions qui seront présentées à l'automne.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Comment mieux contrôler le mécénat d'entreprise dans la culture?
La question se pose en ce 60e anniversaire du ministère de la Culture face à la baisse continue des dotations publiques. Les collectivités territoriales et les institutions culturelles ont dû avoir massivement recours au mécénat d'entreprise. Et en décembre dernier, la Cour des comptes pointait du doigt une facture d'1 milliard d'euros chaque année pour l'exonération fiscale dans ce domaine. Si on y ajoute les récentes affaires de mécénat toxique dans de grandes institutions culturelles, le débat sur le mécénat dans la culture est lancé. C'est un dossier de Cécile Ducavas-Doué.
Là, aujourd'hui, les Sackler n'entreront plus dans l'histoire pour leur philanthropie.
Sackler, c'est le nom de cette famille américaine qui commercialise un médicament antidouleur responsable aux États-Unis de 45 000 morts par an. Parce que la même crise est en train d'arriver en France, Matisse, artiste plasticien, a décidé de passer à l'action. Le 1er juillet, il a organisé une manifestation devant le Louvre, poussant le directeur à supprimer le nom de Sackler de l'aile des antiquités orientales.
Je pense que ça soutient un mouvement mondial contre la philanthropie toxique. C'est un mouvement qui a déjà été engagé contre le mécénat total au Louvre, parce que la culture ne peut plus être un lieu comme ça pour blanchir l'argent du crime.
Car il y a d'autres affaires. En 2014, le photographe amateur sud-coréen Ahae, poursuivi pour corruption dans son pays, avait versé 2,5 millions d'euros au château de Versailles et plus d'1 million au Louvre, obtenant en contrepartie 25% de ses dons. Le blogueur Bernard Askenoff a révélé l'affaire.
Ça a été plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le mécénat, il y a un mélange des genres. Pour l'affaire Ahae, on a accepté son argent en tant que mécène, en même temps, on l'a accepté de louer des espaces pour faire une exposition d'œuvres qui n'avaient pas de qualité et d'en faire la promotion. C'est pas illégal en ce moment.
Et il dénonce la multiplication de ces publi-expositions, Louis Vuitton, Citroën ou Chanel, qui se tiennent dans les musées français sans prévenir le public. Sauf que le public est complice, considère Philippe Bréval, président du Centre des Monuments Nationaux.
On n'a pas envie de payer davantage d'impôts. Certains ne voudraient pas que ce soit par le mécénat, parce que le mécénat a des contreparties. Et alors comment on fait ?
Il faut moraliser le mécénat, répond Sylvaine Pariot de l'association Admical, qui promeut le mécénat d'entreprise et qui compte proposer un code précis de bonne conduite.
On souhaite mettre en place une autorégulation. Après, ce ne sera pas à nous, secteur, de mettre en place des sanctions.
Reste donc la crainte d'une mauvaise publicité. Le ministère de la Culture vient ainsi de rembourser au groupe Lafarge, mis en examen dans le financement du terrorisme, le mécénat offert au musée Cluny. Quant à la mairie de Paris, elle a, elle, refusé le partenariat de Total pour les JO de 2024.
C'est un dossier France Culture signé Cécile de Carvaz-Doué. Le sort d'Ascoval à nouveau devant le tribunal de commerce de Strasbourg. Aujourd'hui, il doit se prononcer une énième fois sur la reprise de l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord, sur un plan de reprise modifié, puisque le repreneur Olympus a vu sa maison mère British Steels mise en faillite quelques semaines seulement après la reprise.
À l'étranger, le sacre de Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, va devenir aujourd'hui le nouveau Premier ministre britannique.
Oui, sans surprise, l'ultra-favori des sondages a remporté la victoire auprès des militants conservateurs hier et va donc remplacer aujourd'hui Theresa May. C'est donc le jour de la consécration pour Boris Johnson. La Première ministre participera, elle, à un dernier conseil des ministres ce matin, avant de se rendre ensuite au palais de Buckingham, où elle présentera officiellement sa démission à la reine Elisabeth. Le nouveau Premier ministre sera ensuite reçu par la souveraine qui doit le charger de former un nouveau gouvernement. Il tiendra ensuite un discours dans une ambiance assez peu joyeuse au Royaume-Uni, car s'il a réussi à convaincre les militants conservateurs de voter pour lui, il est loin, très loin de faire l'unanimité à l'échelle du pays, Antoine Gignot.
À l'échelle du pays, il n'a que très peu de soutien, Boris Johnson. 31% d'opinion favorable, c'est ce que montre le dernier sondage YouGov. À titre de comparaison, Theresa May recueillait 48% d'opinion favorable à son arrivée à Downing Street en 2016. Il manque surtout au nouveau Premier ministre le soutien du Parlement, grâce à leur alliance avec les unionistes nord-irlandais. Les conservateurs ont la majorité, mais à deux voix près seulement. Et si les députés qui menacent de quitter le parti s'en vont, Boris Johnson ne pourra plus faire passer aucun texte de loi, aucune décision politique, il n'aura plus aucun pouvoir. Il va donc lui falloir avant tout de la diplomatie, car sa promesse de quitter l'Union européenne le 31 octobre prochain en ayant au préalable renégocié un accord de sortie risque d'être difficilement tenable. Son avenir politique est fragile. Que vous le considériez comme un bouffon ou comme un menteur, nous devons l'arrêter, écrivent dans un message les responsables du Parti travailliste. Ils réclament des élections législatives anticipées.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Les responsables des institutions européennes ont fait le service minimum hier à l'annonce de la désignation de l'ancien maire de Londres. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, affirme vouloir travailler de la meilleure façon possible avec lui, quand Michel Barnier veut travailler de façon constructive pour la ratification de l'accord de sortie. Boris Johnson veut un Brexit le 31 octobre, quoi qu'il arrive, accord ou non.
À Porto Rico, Sophie Delpont, des mandats de perquisition ont été émis concernant le gouverneur de l'île, Ricardo Rossello.
Oui, ils sont concernés aussi 11 autres personnes impliquées dans un scandale mêlant propos homophobes sur les réseaux sociaux et corruption, alors que depuis 11 jours, les Portoricains manifestent dans la capitale, San Juan, pour demander le départ du gouverneur, notamment après ses propos homophobes envers plusieurs personnalités, dont le chanteur Ricky Martin. Le gouverneur Ricardo Rossello a annoncé qu'il ne se représenterait pas l'an prochain, mais les Portoricains veulent qu'il parte tout de suite, Valérie Crova.
Ils étaient 1 million sur la principale artère de San Juan ce lundi. 1 million, c'est un tiers de la population de l'île de Porto Rico. Une marée humaine qui a défilé au son des orchestres de salsa pour exiger la démission de Ricardo Rossello après les révélations du Centre d'investigation du journalisme de Porto Rico. Il a mis au jour des conversations sur la messagerie Telegram dans lesquelles le gouverneur de l'île et d'autres responsables tiennent des propos sexistes et homophobes. Ricky Martin est l'une des cibles, le chanteur devenu l'un des porte-voix de ce mouvement.
Porto Rico a déjà beaucoup souffert. Il faut que le cynisme de nos leaders s'arrête. Ils ne respectent pas la femme, la communauté LGBT, les handicapés physiques et mentaux, le problème de l'obésité. Il faut que ça s'arrête, ça suffit.
La crise politique que traverse Porto Rico dépasse les Wikileaks. Les manifestants reprochent aussi au gouverneur sa gestion de l'ouragan Maria qui a fait 3000 morts et ravagé l'île en 2017. Depuis, Porto Rico peine à se relever. La faute à la corruption qui gangrène son économie.
Nous partons maintenant au Japon. Plus de 8 mois après la chute de Carlos Ghosn, la situation est toujours aussi délicate chez Nissan. Le constructeur japonais, dont les résultats sont en chute libre, devrait annoncer dès demain un important plan de suppression de postes. Et les fuites dans la presse japonaise évoquent le chiffre de 10 000 emplois supprimés, Yann Rousseau.
Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Ce matin, Hiroto Sakawa, le PDG de Nissan, a brièvement croisé quelques journalistes à Tokyo, mais il n'a pas voulu confirmer l'information. Il n'a d'ailleurs pas voulu non plus la démentir. Toutes les annonces exactes, a-t-il dit, seront en fait ce jeudi à Yokohama, lorsque le constructeur va dévoiler ses résultats financiers pour le trimestre allant d'avril à juin. On sait déjà qu'ils vont être très mauvais. Alors, Nissan n'est pas dans le rouge. Nissan génère encore des profits, mais beaucoup moins qu'avant. Pendant longtemps, la majeure partie des bénéfices du groupe venait des États-Unis, mais le marché a tourné. Nissan a raté le boom du SUV en Amérique et la sortie de la Tesla Model 3 lui a aussi fait beaucoup de mal. La situation est aussi très difficile en Amérique du Sud et n'est pas brillante en Europe. Pour l'instant, il n'y a vraiment que la Chine qui sourit à Nissan. Pour redresser ses résultats, le constructeur se propose donc de tailler encore dans ses effectifs. Il avait déjà évoqué en début d'année 5000 suppressions de postes. Maintenant, il y a cette rumeur des 10 000, ce qui représenterait au total plus de 7% de l'ensemble des effectifs du groupe. Mais Hiroto Sakawa, le PDG, va devoir faire beaucoup plus pour rassurer ses équipes et les actionnaires. Il ne suffit pas de fermer des usines pour relancer une entreprise. Et depuis la disparition de Carlos Ghosn, il apparaît un peu tétanisés, à court d'idées. Certains commencent même à se demander publiquement s'il est le mieux placé pour redresser Nissan.
Yann Rousseau à Tokyo pour France Culture. En France, 80 départements sont en alerte orange à la canicule. C'est du jamais vu. Seules exceptions, la Bretagne et le littoral normand avec en moyenne 20 à 25 degrés aujourd'hui. Et la façade atlantique aura un petit peu moins chaud. Tout comme le pourtour méditerranéen, on devrait rester dans ces régions entre 28 et 32 degrés. Mais partout ailleurs, on devrait compter en moyenne ce matin 27 à 32 degrés, jusqu'à 40 degrés même cet après-midi à Strasbourg. Dans la matinée, 27 degrés à Bordeaux, 31 degrés à Nice et Clermont-Ferrand, 32 degrés à Paris, avec 38 degrés en fin d'après-midi sur l'Île-de-France.